Voilà. Alors, bon, j'espère que j'aurai un peu la voix qui va pas complètement me lâcher. Pour ce matin, nous allons continuer. Peut-être vous vous rappelez, il y a deux mois en arrière, j'avais commencé un thème sur les passages parallèles entre le sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu et l'épître de Jacques. Donc nous allons continuer sur ce thème. Il y a deux mois, pourquoi entre-temps j'ai prêché en fait simplement par rapport à la Pentecôte, c'est pour ça que je n'ai pas pu continuer sur ce thème. Alors voilà la raison pourquoi il y a eu une parenthèse d'un mois. Et je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu il y a deux mois en arrière, les premiers points, les premiers parallèles qu'on avait vus ensemble. Donc, on va pas ouvrir nos Bibles. Moi, je vous cite les versets et puis comme ça, on peut avancer rapidement sur ce petit rappel. Alors, le premier point qu'on avait vu, c'était la compassion, Matthieu 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Jacques 2, versets 12 à 13. « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés d'après une loi de liberté. » Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. On avait vu qu'en grec, miséricorde et compassion, c'est vraiment deux mots qui sont interchangeables. C'est des termes qui sont égaux. Et comme le Seigneur lui-même est miséricordieux, comme notre Père est compatissant, nous aussi, nous devons être compatissants et miséricordieux envers les gens qui nous entourent. Deuxième point, faire la paix. Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jacques 3, verset 18. « Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Et nous vivons en effet dans un monde qui n'est pas très enclin à faire la paix. Soyons donc animés par un autre esprit, n'ayons pas dans notre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute. Jacques 3, verset 17, donc est juste le verset avant Jacques 3, verset 18 que je viens de lire. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Voilà la sagesse que le Seigneur désire déposer dans nos cœurs. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Donc soyons des artisans de paix dans ce monde. Troisième point, se réjouir dans l'épreuve. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jacques 1, verset 2. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. L'important dans nos difficultés, c'est que Dieu soit avec nous. Dans les épreuves, ne cherchons pas l'approbation des hommes, mais celle du Seigneur. Persévérons dans les difficultés, car au final, nous verrons la délivrance et la bénédiction de notre Dieu. Amen. Que ce soit ici ou dans l'autre monde. Le Seigneur est là et ses promesses demeurent. Nous avons mis notre espérance en lui et ce n'est pas l'épreuve qui va nous arrêter, parce que Dieu nous donnera la force encore de persévérer sur son chemin. Amen. Quand bien même, des fois, ce chemin, il est vrai, n'est pas facile. Quatrième point, respectez toute la loi. Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jacques 2, verset 17. En effet, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Nous sommes invités à suivre la parole de Dieu pour nos vies, mais par nous-mêmes, nous en sommes totalement incapables. Il n'y a qu'à voir juste la lecture que je viens de faire. En effet, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Qui peut être sauvé en suivant la loi? Attention donc au légalisme. Le légalisme, c'est justement quand on essaye de se sauver par soi-même, quand on oublie la dimension de la grâce. Le légalisme, c'est encore ajouter plein d'ordonnances qui ne sont pas indiquées dans la Bible, en pensant qu'en suivant ces ordonnances, nous allons plaire à Dieu. Et le légalisme, on l'avait vu, peut prendre une forme très spirituelle. Par exemple, en pensant que nous devons œuvrer pour le Seigneur avec plein d'activités diverses et variées, en se mettant une pression sur nous-mêmes ainsi que sur les autres. L'inverse du légalisme, l'antidote au légalisme, c'est la mort à nous-mêmes. C'est lorsque nous laissons à Jésus-Christ la première place dans nos vies que nous sommes régénérés et capables de toute œuvre bonne, comme le dit Hébreux 13, versets 20 et 21, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute œuvre bonne pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que notre Seigneur Jésus nous rende capables de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est donc pas par nous-mêmes, mais c'est uniquement parce que Dieu est avec nous que nous allons pouvoir le servir. Donc on va continuer notre parcours sur ces parallèles entre l'épître de Jacques et l'évangile de Matthieu, donc le serment sur la montagne. Prochain point, qui est donc le cinquième point, la colère. Matthieu 5, verset 22, et si vous voulez ouvrir vos Bibles, ben, vous en avez l'occasion. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Un autre point, en parallèle de ce que nous venons de lire, se trouve donc dans Jacques. Jacques 1, verset 19, ainsi que le verset 20. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous voici donc avertis d'une manière assez directe sur l'importance de garder nos cœurs dans une bonne attitude envers nos frères et nos sœurs. Cherchons à maintenir un lien de paix entre nous. Et ceci va dépendre de l'effort que nous devons tous fournir. Car la colère ne saurait accomplir la justice divine. Ne l'oublions pas dans nos rapports avec les autres. Dire à son frère « Raca », qui est un mot qui tire son origine d'une expression araménéenne, signifie « tête vide », nous rend passible du jugement, et dire à son frère qu'il est un fou nous condamne à l'enfer. C'est pourquoi tout homme et toute femme soient prompts à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Et soyons francs, je pense que parfois nous faisons des jugements à l'emporte-pièce, sous le coup de l'émotion, et sans connaissance de cause, en regardant juste aux apparences extérieures qui nous semblent donner raison de juger ou de critiquer ou de nous mettre en colère contre un frère. La colère et le jugement prennent alors la place de la compassion et à être des artisans de paix, marchant selon une sagesse humaine et non selon l'amour de Dieu. Par contre, bien sûr, si un frère ou une sœur vit dans le désordre, nous qui sommes spirituels, nous devons aussi apprendre à reprendre celui-ci ou celle-ci dans la douceur. Je vous lis juste Galates 6, les versets 1 et 2. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. » Que le Seigneur nous donne donc sa sagesse dans nos rapports fraternels, ainsi que de l'amour, et non un esprit de jugement ou de dureté de cœur. Je pense que ce n'est pas simplement par rapport à nos frères et nos sœurs, mais c'est dans nos relations de manière générale, que ce soit en société, que ce soit avec nos voisins, que ce soit avec les membres de nos familles, que ce soit en tout lieu, sur le lieu professionnel également, que le Seigneur nous donne un esprit de douceur et un esprit de sagesse et non un esprit de jugement qui regarde peut-être sur les apparences extérieures et qui s'imagine pas peut-être ce que le frère ou la sœur vit personnellement dans son existence. Donc, cinquième point, la colère. Sixième point, s'attacher exclusivement à Dieu. Matthieu 6, verset 24. S'attacher exclusivement à Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jacques 4, verset 4, pour un passage parallèle, s'attacher exclusivement à Dieu. Jacques 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Être ami du monde, c'est quoi? C'est vouloir recevoir de lui les éloges, la reconnaissance, être bien vu de la société environnante. Pour cela, le croyant qui vivra avec une telle motivation sur son cœur, inévitablement s'éloignera de Dieu. Il deviendra adultère. L'amour du monde fait de nous des adultères spirituels, c'est-à-dire que petit à petit, celui qui est amoureux du monde va se tourner vers un faux Dieu pour le vénérer. On ne peut, par exemple, être chrétien et franc-maçon à la fois. On ne peut non plus être chrétien et adhérer en même temps à des formes spirituelles en vogue dans la société, comme le New Age, comme le bouddhisme, comme la sophrologie, comme le fait d'appeler à des guérisseurs qui connaissent le secret, ou participer à des voyages astro, faire du yoga, utiliser des drogues, toutes ces choses qui sont du monde, ou la pratique de chercher à se connecter à des sources d'énergie venant de pierres, de végétaux, de rivières, de montagnes, de chamans ou que sais-je encore, hein? Si on cherche à se connecter à une énergie, on est du monde. C'est les païens qui vivent comme ça. Nous, en tant que chrétiens, notre source de vie, c'est le Saint-Esprit. Notre source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va être notre force. On ne met pas notre confiance dans un morceau de bois ou dans un morceau de pierre ou dans une montagne qui serait sainte et qui nous donnerait, lorsqu'on y va, d'être renouvelé intérieurement. Non. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit et non à rechercher une source d'énergie extérieure à nous-mêmes, parce que ça fait de nous des adultères, ça fait de nous des idolâtres. Nous allons faire une idole d'un endroit ou d'un monument même, hein. Ça peut être une église du Moyen-Âge, et puis on se dit, ah ben dans cette église-là, il y a une énergie particulière. Chaque fois que je vais dans cette église-là, je sens cette énergie particulière, ça me booste, ça me fait du bien. Ben non, hein, ça c'est une forme d'idolâtrie. L'amour du monde, c'est être adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde sera ennemi de Dieu. L'amour du monde, c'est encore s'attacher à ses valeurs, aux valeurs du monde, et l'une de ses valeurs principales, c'est celle de l'argent. On ne peut avoir deux maîtres dans notre vie. Soit c'est Dieu, soit c'est l'argent. Quel est donc notre maître? Plaçons-nous notre confiance en Dieu, qui nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonnerait pas, ou plaçons-nous notre confiance en nous-mêmes et dans l'argent pour nous assurer un bon avenir? Je laisse la question en suspens et c'est à chacun de nous d'y répondre. Hein. En quoi est-ce que nous allons placer notre confiance? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la société et le néo-capitalisme dans lequel on se trouve, ça devient difficile de placer sa confiance dans l'argent. Hein. Dans quelle banque on peut être assuré que dans 10 ans, elle est encore debout? Hein, je ne veux pas jouer au prophète de mauvais augure, mais aujourd'hui, on est sûr de rien. On est dans une économie qui est quand même assez instable. Et c'est pour cela que nous avons le privilège, en tant que chrétiens, de pouvoir placer notre confiance en Dieu et de pouvoir le partager aussi autour de nous, parce qu'autour de nous, il ne manque pas des gens qui sont dans des difficultés financières quand même assez compliquées. Mais on peut leur parler de Dieu, de ce Dieu qui est vivant, de ce Dieu qui agit, de ce Dieu qui libère, de ce Dieu qui bénit, de ce Dieu qui donne la sagesse pour gérer les finances. Alors, 6e point, s'attacher exclusivement à Dieu. 7e point, la perfection. Alors, on va voir, hein, pas tout simple, hein, la perfection. Mais bon, ben, c'est indiqué, ça a été écrit ainsi dans les Écritures. Donc, Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. C'est Jésus qui nous parle. « Soyons donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans la vie, il nous faut de la patience. Et de la patience, ça veut dire qu'on ne reçoit pas les choses tout de suite. Dans la patience, ça veut dire qu'on doit persévérer, ça veut dire qu'on doit endurer, ça veut dire que peut-être on traverse une situation différente, difficile, une situation qui est où on ne voit peut-être pas la solution, mais dans cette situation, ce dont nous avons besoin, c'est la patience. Cette patience qui va travailler notre cœur, cette patience qui va laisser, malgré les difficultés, la première place au Seigneur Jésus. Et cette patience qui s'attend à Dieu, au-delà des circonstances, cette patience qui ne s'inquiète pas de la tempête qui se manifeste autour de sa vie, cette patience qui permet de rester le cœur en paix. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Être parfait, voilà donc un grand défi devant lequel le Seigneur nous place. Mais au moins, l'avantage, c'est que la couleur nous est annoncée. La vie chrétienne n'est pas si simple et si facile que cela. Elle est un sacré challenge. Hein? Dieu met la barre haut. Et en quoi devons-nous être parfaits? C'est un petit peu là-dessus qu'on va s'arrêter ce matin pour ce 7e point, la perfection. Est-ce que nous devons être parfaits quant à notre coupe de cheveux? Est-ce que nous devons être parfaits en finissant premier de sa classe? Est-ce que nous devons être parfaits en ce qui concerne une réussite sociale? En quoi, donc, devons-nous être parfaits selon la pensée de Dieu? Pour en savoir un peu plus sur cette perfection que Dieu nous demande, nous allons simplement regarder dans la Bible. Et le premier point, c'est dans l'amour de nos ennemis. Parce que si on lit avant Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », le verset 44 nous dit ceci, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et c'est ainsi que nous serons parfaits. C'est l'amour des ennemis. C'est pardonner à nos ennemis. C'est ne pas retenir si quelqu'un nous a fait du mal. D'ailleurs, je pense qu'avec l'expérience, quand on a peut-être vécu quelque chose de difficile, une injustice, et puis que 20 ans ou 30 ans plus tard, on regarde en arrière, je pense qu'on peut se dire, mais à quoi, en quoi est-ce que ça aurait bien pu être utile de retenir et de ne pas pardonner, hein? Est-ce que ça aurait fait changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça aurait fait changer quelque chose dans la vie de l'autre que de lui en vouloir, que de rester en colère contre lui, que de rester dans l'amertume? Je pense qu'avec le temps, on voit bien que tout ceci, si on garde ces choses sur notre cœur, ce n'est qu'une perte d'énergie et une perte de temps. Il est bien plus simple de pouvoir pardonner. Et alors, des fois c'est difficile, hein, certes, suivant l'injustice qu'on a subie, mais Dieu va nous aider à pardonner et ne pas porter un fardeau inutile et un fardeau qui va peut-être ronger notre vie et un fardeau qui peut même biaiser notre identité, hein, suivant ce qu'on a vécu de terrible. Un fardeau où on n'a pas pardonné, ben c'est vrai que ça peut biaiser notre identité, notre façon d'être, notre personnalité. Qu'avons-nous à garder un non-pardon? Quel avantage? Je crois qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que Dieu nous aide à pardonner nos ennemis, à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à les bénir dans le nom du Seigneur en espérant que peut-être un jour ils se tourneront vers Dieu et que peut-être un jour ils reviendront avec d'autres motivations auprès de nous. La perfection, comme nous l'avons vu en Jacques, c'est cette patience dans l'épreuve. Voilà un deuxième point de perfection auquel Dieu nous attend dans l'épreuve, soyons patients. Et si dans l'épreuve nous sommes patients, alors Dieu nous déclare parfaits. Amen. Et dans cette société du tout de suite, où en tant que chrétien, des fois, on pense aussi qu'on va avoir tout de suite, et puis alors on va courir d'un séminaire à l'autre, d'un orateur à un autre, d'une église à un autre, en espérant recevoir ce tout de suite. Ben, peut-être Dieu ne nous attend pas du tout là. Dieu nous attend dans la patience, dans la persévérance, dans le fait de rester en paix malgré les difficultés, sachant que Dieu est avec nous. Amen. Il y a d'autres passages bibliques encore qui nous parlent d'être parfait. Et c'est intéressant de remarquer que cette perfection à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Dieu nous invite, ne se trouve dans aucun texte de l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y a jamais ce terme parfait ou perfection par rapport à Dieu, oui, mais par rapport aux croyants, non. Et ce n'est pas étonnant, parce que voici ce que Hébreux 7, verset 11 déclare, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? » Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons un sacerdoce parfait. Et ce sacerdoce parfait nous invite à entrer aussi personnellement dans une perfection de vie, dans des points auxquels le Seigneur désire que nous puissions grandir et lui ressembler. Alors, en quoi est-ce que la Bible nous invite encore à être parfait? Parfait dans la joie. Jean 17, l'évangile de Jean, 17, verset 13. C'est Jésus qui nous parle. Jean 17, verset 13. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jésus est venu dans ce monde, il a parlé dans ce monde, afin que aujourd'hui, par la connaissance de sa parole, par la connaissance de sa personne, nous puissions avoir une joie parfaite. Joie parfaite parce que Jésus est monté au ciel, elle nous a envoyé le Saint-Esprit, et si on veut connaître une joie parfaite, eh bien cette joie parfaite, elle est dans le Seigneur. Hein? Et c'est pas une joie éphémère, c'est une joie qui est là, en toutes circonstances, elle est disponible pour chacun d'entre nous, elle nous est donnée au travers de Jésus-Christ. Alors bien sûr, hein, des fois quand on entend une bonne nouvelle, on est dans la joie. Quand il y a quelque chose de positif qui nous arrive, on va être dans la joie. Ah, bienvenue. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Il y a encore la grand-maman. OK. Il y a, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Une joie parfaite, donc, qui est dans le Seigneur et qui nous est donné par notre Dieu. Nous allons voir encore un dernier point sur cette perfection et je continuerai par la suite à partager sur ce terme. Parfait selon la stature de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le projet du Seigneur pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions arriver à cette stature parfaite de Christ, à être des adultes dans la foi et non des enfants flottant à tout vent de doctrine et se laissant dériver par de faux esprits qui mettent la confusion au milieu du peuple de Dieu. Non, nous sommes appelés à être des adultes dans la foi, à être des gens avec du discernement, à être des gens avec de la connaissance par rapport à la parole de Dieu, de la connaissance par rapport aux enseignements chrétiens, de la connaissance par rapport à la doctrine et de la sagesse dans nos rapports les uns avec les autres. Le projet du Seigneur, c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, hein? Sacré challenge, hein? Mais si Jésus est mort, c'est pas pour rien. C'est pas pour qu'on reste un petit enfant qui se laisse balloter à tout vent de doctrine. Non, nous devons être affermis sur la parole. Nous devons avoir une connaissance des Écritures. Nous devons avoir une foi qui est saine, une foi qui est équilibrée, une foi qui témoigne la sagesse du Seigneur. Et nous devons être des croyants et des croyantes qui témoignent de la stature à peine parfaite ou presque parfaite. Non, parfaite du Christ. Alléluia. Hein? Jésus, il est mort pour ça. Il est mort pour qu'on reste pas des petits enfants ou des ados dans la foi, mais il est mort afin que nous puissions être des adultes dans la foi, des hommes avec une stature solide, avec un comportement qui soit à la gloire de Dieu, avec une révélation qui vient d'en haut, avec une sagesse, une empathie, un amour, de la miséricorde, de la justice, de la joie, toutes ces choses que Dieu désire encore déverser en abondance en chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse encore au travers de sa parole, que le Seigneur renouvelle encore notre foi et notre intelligence Que Dieu renouvelle sa patience en nous afin que nous puissions être parfaits en lui. Amen.